Dans l'EM, l'émission dont le nom évoque entre autres le module lunaire, on se devait de marquer les 50 ans du premier homme sur la Lune. Et oui, c'est cette année, puisque c'est en 1969, le 21 juillet, que Neil Armstrong a fait un petit pas pour l'homme et un pas de géant pour l'humanité. Certains préparent même une commémoration d'envergure, comme l'association de reconstitution historique Artisan. Et sur leur base de Saint-Ségal, ils vont nous faire revivre l'événement. Ce sera bien sûr les 20 et 21 juillet. En attendant, l'un d'entre eux, Rémi Toularastel, vient nous faire patienter chaque semaine avec ses chroniques de la Terre à la Lune. Bien sûr, c'est une chronique du lundi, le jour de la Lune.
De la Terre à la Lune, épisode 5. Avec le succès d'Apollo 11, les Américains ont gagné la course à la Lune. Et comme dans beaucoup de compétitions, une fois le vainqueur désigné, la tension diminue, l'intérêt est moins vif. Le monde est bien évidemment bluffé par l'exploit réalisé. Mais une fois cet exploit réalisé, l'effet de surprise disparaît. Pourtant, les missions continuent. Apollo 12 décolle le 14 novembre 1969, et ça commence mal. La fusée est touchée par la foudre, deux fois. Mais la Saturn V est solide, et elle peut poursuivre sa mission. Les autres embûches de la mission seront surtout des erreurs d'inattention. Il est prévu de retransmettre des images en couleur depuis la Lune, l'astronaute en charge de la caméra la pointe vers le Soleil et la détériore, donc pas d'image. Le même astronaute oublie des pellicules sur la Lune. Pourtant, la mission scientifique en elle-même se passe bien. Des instruments scientifiques sont posés et des échantillons de roches ramenés. Une certaine routine s'installe. Mais la routine dans le domaine spatial, ça peut vous tuer. Apollo 13 s'envole le 11 avril 1970. Au bout de 56 heures, une violente secousse ébranle le train lunaire. Un réservoir d'oxygène vient d'exploser. La faute à un circuit électrique mal isolé. Les niveaux d'oxygène et les puissances électriques fondent comme neige au soleil. Toutes les tentatives de freiner les fuites échouent. Il faut trouver une solution, et vite, très vite. Un des techniciens au sol propose que le LEM serve de canot de sauvetage. L'opération doit se faire rapidement. Dans 15 minutes, il n'y aura plus d'électricité dans le module de commande. Et si le LEM n'est pas rallumé dans ce créneau, les astronautes seront à la dérive, incapables de se repérer dans l'espace. Le transfert vers le LEM est réussi. À partir de maintenant, la Lune n'est plus une destination, mais une étape. Ils vont en faire le tour pour revenir au plus vite sur Terre. Le LEM est conçu pour accueillir deux hommes pendant 48 heures. Là, ils sont trois, et le trajet de retour va prendre 80 heures. À l'exception de la radio, tous les systèmes électriques sont coupés. L'équipage récupère les cartouches de filtration d'oxygène du module de commande pour les utiliser dans le LEM. Problème, elles sont carrées. Les logements dans le LEM sont ronds. Un astucieux bricolage résout l'équation. Vous connaissez la fin de l'histoire, l'équipage réussit à rejoindre la Terre. Pour la blague, après le retour des astronautes, Grumman, le constructeur du LEM, envoie une facture à North American, le constructeur du module de commande. Il s'agit d'une facture pour frais de remorquage de 400 540 dollars. Cet épisode remettra le programme Apollo en lumière. Mais déjà, les premières coupes budgétaires arrivent et la mission Apollo 20 est annulée. Également annulées, les missions Apollo 18 et 19. L'arrêt de la production des fusées Saturn V est programmé. Apollo 14 est pourtant la première mission véritablement scientifique. Apollo 11 et 12 étaient des missions nécessaires pour valider la possibilité de se poser sur la Lune. Pour Apollo 14, les astronautes qui se posent sur la Lune sont formés à la géologie. Ils doivent prélever des roches sur des sites bien précis. L'un d'eux est situé à 1300 mètres du LEM. Pour les aider dans ce long trajet, ils disposent d'une sorte de brouette qui se révèle rapidement gênante. La notion des distances est faussée sur la Lune. Les repères manquent. Il faut garder à l'esprit que la Lune est un désert. Sur une mission de 4 heures, en 1h15, les deux astronautes ont parcouru 150 mètres. Le site recherché est encore à plus de 1000 mètres. Ils le chercheront sans succès. Il devient évident que se déplacer à pied sur la Lune avec du matériel est très compliqué. La faible gravité favorise le déplacement par petits bonds. Mais le matériel scientifique supporte mal ce genre de transport. C'est Apollo 15 qui transporte la solution dans ses flancs, à savoir un rover lunaire. Il ne permet pas d'aller plus loin que les autres missions, il faut pouvoir revenir à pied s'il tombe en panne, et ce en moins de 2 heures. Il permet surtout d'aller plus vite, d'emporter davantage de matériel et de récupérer plus de roches. La mission Apollo 15 s'achève sans problème. Elle est pourtant entachée quelques mois après par la révélation du scandale dit des timbres postaux. Les astronautes ont le droit d'emporter sur la Lune des effets personnels, notamment des enveloppes que les astronautes distribuent à leur retour en guise de souvenirs. Mais les 3 astronautes d'Apollo 15 ont emporté beaucoup plus d'enveloppes que déclarées et ils ont prévu de les revendre. Le public s'interroge sur les profits réalisés et les astronautes sont alors interdits de vol. Ils tentent d'expliquer leur geste. Ils n'ont pas pu contracter une assurance vie pour leur famille du fait de leur profession pour le moins risquée. En cas de malheur, les familles auraient alors récupéré les enveloppes qu'elles auraient pu revendre pour bénéficier d'une compensation financière. Je vous laisse seul juge de la démarche. La mission Apollo 16 se déroule elle aussi de manière parfaite. Le séjour sur la Lune est porté à 72 heures contre 21 pour Apollo 11. Vient ensuite la dernière mission du programme Apollo, Apollo 17. Les coupes budgétaires ont raccourci le programme des missions Apollo, ce qui bouscule un peu les affectations des équipages. Pour la première fois du programme Apollo, un scientifique fait partie de l'équipage. Il s'agit d'Harrison Schmitt, un géologue. À partir d'Apollo 14, les équipages sont formés à la géologie, mais rien ne vaut l'expertise d'un scientifique sur le terrain. C'est alors qu'on découvre que la Lune a été formée à partir de matériaux provenant de la Terre. C'est une collision entre la Terre et une planète vagabonde qui a créé la Lune. Les astronautes le savent, ils sont les derniers à parcourir la Lune pour un bon bout de temps. L'équipage d'Apollo 17 quitte la Lune le 14 décembre 1972. La NASA subit des coupes budgétaires importantes. Les États-Unis sont engagés dans la guerre du Vietnam qui leur coûte très cher. Une page se tourne. La course à la Lune est terminée. Pour l'anecdote, les Soviétiques ont voulu battre les Américains sur le fil en essayant de ramener une roche lunaire avant Apollo 11. Ils envoient une sonde qui doit se poser le 21 juillet 1969, quelques heures avant les Américains. Elle s'écrase sur la Lune. Quand ça veut pas... La Lune, c'est fini. Pour le moment. La NASA a encore une dernière fusée Saturn V sous le coude et compte bien s'en servir. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai dans le prochain épisode.